va passer au DIY, au do it yourself, parce que donc on sait que elle illustre les print and play. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marilyn, des print
J'ai
and play?
jamais fait encore de print and play. Là, je commence à avoir des trucs qui me sont envoyés, qui ont l'air intéressants. Faut que je m'y mette. Je pense qu'il faut que je regarde quel matériel je vais avoir besoin.
Qui sont envoyés.
Il faut écouter les chroniques de Alexis.
C'est ça.
Tout à fait.
Ils expliqueront tout, comment faire tes dés, comment plastifier tes cartes.
Le matériel à utiliser.
Te couper des doigts avec
le scalpel.
Le scalpel.
Truc très sympa.
D'accord. Bon,
la chronique des d'ailleurs, Alexis va parler de love letter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pimper son love letter? Des jetons cartonnés, des cœurs en fimo. Des cœurs en fimo.
C'est bien parce que... Sérieux?
C'est l'épisode rose.
On pourrait le réutiliser pour la Saint-Valentin. Des idées
très
de
bien.
Boîte en forme de cœur.
Voilà. C'est chou.
Et il m'a promis que ça va sentir la rose, ça va puer le rouge, les cœurs, voilà. Et puis Guilin, lui, va. Alors, il devait essayer de trouver des créatrices.
Il dit j'hésitais avec une chronique sur les dépipés.
Et puis en direct de Saint-Claude, c'est ça? Voilà. Bon. Et ben, tout de suite, les d'ailleurs.
Bonjour les makers et bonjour les makeuses et bonjour Guilin.
Salut Alexis et bonjour Sonia ce soir.
Et oui, car ce soir, bonsoir Sonia,
bonsoir.
Une invitée pour l'épisode rose, donc on a souhaité avoir une voix féminine ce soir, et donc c'est Sonia qui, dont on va faire une interview, et puis du coup je vais laisser Guilin lancer ça, puisque c'est lui qui va s'en occuper.
Ouais, donc bonsoir Sonia, merci d'avoir accepté bonsoir. L'invitation. Avant de se lancer dans le vif de l'interview, tu veux nous dire quelques mots sur qui tu es et pourquoi tu crois qu'on t'a interviewé, enfin pourquoi tu penses qu'on t'a contacté?
Alors, je m'appelle Sonia, je suis une geek, je joue à des jeux de société et particulièrement les jeux de société PNP, enfin print and play, des jeux de société que l'on imprime et avec lesquels on joue, en même temps que d'autres jeux de société, le placard est plein, on va dire. Et par rapport à toute l'équipe, en fait, c'est sûr, j'ai participé sur les forums sur Board Game Geek, le site pour les joueurs de jeux de plateau, jeux de société en général, et ça m'a permis de faire des connexions et de voir les différents sujets proposés par l'émission, en fait. Comme vous avez fait, là c'est le numéro 56, c'est bien cela?
Ouais.
Oui. Donc, j'ai pu voir quelques épisodes et des discussions formidables, et en fait, ça m'a donné envie de participer à ce show, en fait, dédié aux femmes.
Ben voilà.
Voilà.
Bon, alors du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, et dans ton point de vue, justement, sur la femme dans le milieu du jeu de société. Alors, ce qui est intéressant, par opposition à ce qu'ont pu faire comme interview Olivier et Jérémy dans la partie principale du podcast, c'est que on va s'intéresser plus à la communauté Board Game Geek par opposition au milieu du jeu de société dans son ensemble. Voilà. Donc du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu as le ressenti, toi, que dans le jeu de société, il y a du sexisme, que ça soit au niveau de l'imagerie de la femme ou que ça soit au niveau de la parité dans les personnages qu'on trouve dans les jeux, etc.
Je dirais que traditionnellement, oui, il y a du sexisme dans les jeux de société, particulièrement les jeux de société inspirés de jeux de rôle ou de guerre, que ce soit historique ou même de science-fiction, en fait. Maintenant, je dirais que la variété de catégories de jeux, les différents mécanismes qui sont utilisés, font qu'ils sont devenus un peu plus égalitaires quand même, dans la participation féminine, la participation ayant augmenté quand même. Je dirais que on achète en tant que femme beaucoup plus de jeux de société, ça souffre moins du regard des décennies passées, on va dire, parce que maintenant les jeux ne se cantonnent plus à des jeux de lettres ou du Scrabble ou ce genre de choses. Ça a évolué et la société a évolué, et donc même si il y a toujours un petit peu de sexisme dans certains graphismes ou quelques idées obsolètes avec la représentation de la femme, je dirais que les choses ont beaucoup évolué.
Et alors, du coup, est-ce que tu as l'impression que dans le jeu en print and play ou de façon générale dans le jeu qui est librement disponible, il y a une différence, ou est-ce que tu ressens la même chose?
Alors, par rapport aux jeux de plateau et jeux de société en général, le print and play, c'est différent dans le sens qu'il y a plus d'attention aux détails de la part des créateurs. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que ce sont des créateurs en attente d'éditeurs ou juste pour tester des jeux par rapport à un public. Et c'est là où Board Game Geek est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choix par rapport à ça. Et je dirais que maintenant les graphismes ont changé, c'est plus moderne, c'est plus novateur, les jeux sont toujours plus variés dans les mécanismes. Donc, il y a plus de participation, plus d'interaction entre le créateur du jeu, le designer graphique, etc. C'est-à-dire que c'est communautaire. Le print and play, c'est communautaire. On partage des idées, même pour bricoler. On se donne des idées pour mieux faire des pions, des jetons, mais en même temps ça va dans des niveaux des fois où même moi je ne peux pas faire la compétition. Il y en a pour tous les goûts en fait, hein.
Donc, et au niveau de la place de la femme, pardon, excuse-moi.
Ouais, c'est vrai que sur quand on voit par exemple tous les work in progress,
oui.
c'est intéressant de voir que il y a énormément d'échanges sur la conception des jeux.
Tout
et
à
du coup,
fait.
C'est vrai que la majorité, enfin, il y a des jeux qui sont faits par une personne toute seule dans son coin, mais il y a
oui.
aussi énormément de jeux qui justement profitent de l'apport de toutes les personnes qui s'intéressent au projet. Et c'est vrai que du coup, bah, de ce fait-là, il y a une tolérance, enfin, les valeurs d'un petit peu tout le monde qui arrivent. Et c'est vrai que c'est agréable.
C'est devenu un échange d'idées. Et par rapport à ça, c'est vrai que les anciennes idées, le sexisme et tout ça, les graphismes un petit peu... pas travailler, ça laisse plus de place à de la création, parce que l'échange d'idées en fait mène à la création, à d'autres idées, à du partage. Si on aime un designer pour les images qu'il fait sur des cartes, pour le graphisme, l'attention aux détails, peut-être il peut être amené à travailler sur d'autres projets. Et donc par rapport à ça, ça rend le jeu de société, et particulièrement le print and play, ça donne une idée de jeu en attente d'être publié, parce qu'on finit un résultat où tout le monde participe, on finit un résultat semi presque professionnel.
Mmh. Alors, moi, je m'étais quand même posé une question, justement. Tu vois, tu dis le print and play, c'est des gens qui, quelque part, même si c'est pas forcément avoué, cherchent à être publiés. Mais
oui.
je m'étais posé la question quand même s'il n'y avait pas une sorte de liberté de ton qu'il n'y a pas forcément quand tu fais un jeu qui est destiné à être vendu. Je prends
tout
un exemple,
fait, oui.
Là Nick Hayes, le gars qui a fait Chunky
oui.
Fighter, il est en train de discuter d'un projet qu'il a, où en gros j'ai suivi un peu de loin, mais la thématique c'est que tu vas récupérer des enfants orphelins dans la rue, les faire travailler. Bon, c'est pas super politiquement correct. Je suis pas du tout sûr que ça soit éditable. Mais comme c'est finalement un travail qu'il fait lui en amateur, ça pose aucun souci. Et c'est pour ça que je m'étais posé la question par rapport à la place de la femme, parce que je m'étais dit, est-ce que finalement, dans le commerce, on a toujours ce sexisme au niveau de l'imagerie et tout ça, parce que ça fait vendre, et du coup, c'est nécessaire sur le marché.
Oui, oui. Ouais. Dans le commerce, les éditeurs sont soumis aux lois de ce qu'ils vendent le plus aussi. Donc, quelque part, ils font une autocensure sur ce qui serait politiquement correct en termes de jeu, que le PNP n'aurait pas. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est une évolution, mais ça ne veut pas dire que le jeu est politiquement correct. Il y en a pour tous les goûts, absolument.
Mais alors, du coup, est-ce que tu penses qu'on va trouver plus de sexisme dans le PNP parce que on est libre de faire ce qu'on veut et on peut y aller comme des barbares si on veut au niveau de l'image de la femme, ou au contraire les gens ne cherchent pas forcément on va dire l'image choc qui va appâter le chaland, et du coup on en va en trouver moins
Je dirais que l'avantage d'une communauté comme sur Board Game Geek qui partage beaucoup au niveau du PNP, c'est que il y a une façon de dire quel jeu est populaire ou pas sur le nombre de personnes qui vont enfin demander les dossiers du jeu, les imprimer, le jouer et les comptes rendus. Donc il y a un système de notation autant pour le PNP que pour les jeux traditionnels. Donc à partir de là, si les gens n'aiment pas, de toute façon la note sera mauvaise.
Oui, donc il y a quand même un marché quelque part, même si c'est pas un marché financier, il y a un marché
exactement,
de l'image entre guillemets que tu as
un
de ton
feedback,
jeu.
Un feedback, ouais. Comme on aurait sur Facebook avec le like ou pas,
ouais.
En fait, sur un système de est-ce que j'aime ou pas, est-ce que je l'ai dans ma collection, est-ce que je le recommanderais à d'autres, non. Donc à partir de là, on peut avoir des jeux qui sont très bien classés au niveau du PNP, comme des jeux très mal classés au niveau du PNP. Et ouais. Par rapport aux autres jeux aussi.
Oui, d'ailleurs, tu disais qu'on pouvait liker comme sur Facebook et unliker, par contre, ça, pas comme sur Facebook. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on va filtrer parce qu'on sait que...
Voilà.
Enfin, voilà, que c'est soit de la provoque, soit de la polémique.
Voilà.
Quel que soit le sujet, que ce soit le sexisme ou autre chose.
Exactement.
Mais parce que, voilà, il y a des gens qui... Enfin, voilà, c'est...
Il y a un système de vote. Il y a un système de vote qui va jouer en fait sur 10 points par exemple, ce qui va jouer sur le classement du jeu par rapport à la popularité. Et le jeu peut être provocant mais intéressant. Le jeu peut être provocant et sexiste. Donc à partir de là, c'est propre aux gens de décider s'ils aiment ce jeu ou s'ils n'aiment pas.
Mais du coup, c'est bien le public qui fait, on va dire, la décision de l'acceptabilité d'un jeu, et c'est
oui.
pas soit une vision marketing peut-être oui. faussée ou une censure ou des choses comme ça, c'est bien le public
exactement.
Lui-même qui décide
oui.
quoi.
Ouais. Tout à fait, tout à fait.
Alors, du coup, on parle beaucoup de la communauté depuis tout à l'heure. Toi, tu as un groupe de joueurs autour de toi IRL.
Disons que autour de moi, je me suis fait des amis sur le site de Board Game Geek parce que quelque part, je souffrais de vivre au milieu de la Bourgogne, entre le Jura et la Côte d'Or, et je me disais avec qui je peux jouer parce que je venais d'emménager, et donc je me disais qui sait localement avec qui je peux jouer. Et avec ça, bon, j'ai fait beaucoup d'amis sur Board Game Geek et en même temps j'ai lancé une guilde locale et il n'y a pas trop de participants parce que justement je suis géographiquement dans un endroit qui est un peu désœuvré, on va dire, mais en même temps j'arrive quand même à participer et avoir trouvé des gens localement avec qui je peux jouer, pas beaucoup mais j'en ai trouvé.
Et alors plutôt des femmes ou plutôt des hommes?
Des deux.
Des
familles,
ouais.
Des familles.
Des familles. Donc c'est équilibré.
Oui. C'est équilibré.
Parce que j'aurais voulu faire le parallèle entre les communautés de joueurs
oui.
IRL et la communauté Board Game Geek. Bon là en l'occurrence ça s'y prête pas forcément trop, mais moi je me suis amusé à faire le compte dans le club de joueurs auquel je vais, où on est à peu près une quarantaine, et j'ai l'impression, à vue de nez, parce que je me suis pas amusé à prendre la liste des membres, mais j'ai l'impression que il y a à peu près 60% d'hommes, mais c'est pas un gros 80%, tu vois. Il y a quand même pas mal de nanas. Et sur Board Game Geek, en particulier dans la communauté en print and play, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse communauté féminine. Alors je sais pas si c'est du 50-50 ou pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de nanas qui sont vraiment très actives, quoi.
Tout à fait. Je dirais que par rapport à ça, ça permet ce site-là, c'est égalitaire. Il n'y a pas à aller voir les gens, toujours les mêmes groupes de joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Les clics
ouais.
de joueurs expérimentés qui pourraient effrayer quelqu'un qui est nouveau dans les jeux de société ou quelqu'un de plus aguerri ou certains types de jeux. Parce qu'il y a le problème de ces groupes de joueurs dans la vraie vie, c'est que pour être inclus dans ce groupe de joueurs, faut être du même niveau et aimer potentiellement les mêmes jeux. Et par rapport à ça, Board Game Geek s'est ouvert à tous les jeux, à toutes les personnes, avec des forums différents et par rapport aux jeux. Et donc, à ce niveau-là, ça n'effraie pas Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas ce côté, intégrer un groupe déjà formé, en fait.
Mmh. Alors, moi, par rapport à la communauté, j'ai un autre rapport, parce qu'en fait, je ne sais pas qui est femme et qui est homme. Parce que c'est pas forcément indiqué, il y a des gens qui ont des profils et qui n'indiquent pas. Et en fait, c'est vrai que quand je regarde une création, en fait, déjà, enfin, à la base, je m'en fous de savoir si c'est une femme ou pas, parce que, en termes de création, enfin, on dispose à peu près des mêmes capacité normalement, donc
oui.
Donc voilà, et à part certaines personnes dont je connais les noms, où on sait par le prénom que c'est a priori plutôt un homme qu'une femme, je sais pas, par exemple Nick Hayes, on sait que c'est un homme, mais il y a des personnes qui viennent de pays où les prénoms sont très différents, et les gens coréens ou japonais, je peux avoir leur prénom sans savoir si c'est un homme ou une femme derrière, s'ils n'ont pas sur leur profil, et c'est assez intéressant, parce que finalement, en fait, du coup, ça crée une herméticité au sexisme, puisque on sait pas si derrière, si c'est un homme ou une femme.
Ça peut être un surnom que l'on se donne, comme, je ne sais pas, Kung Fu Hamster, ce genre de choses. Après, Pikachu, je ne sais pas. Après, si on arrive à avoir des discussions intéressantes par rapport à certains jeux, tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas le blocage de société que l'on pourrait avoir pour du face-à-face, en fait. Hein.
Et d'ailleurs, c'est exactement le même constat par rapport à l'âge des personnes, hein, parce que je me suis retrouvé à échanger avec des personnes, donc pas dans le cadre de Board Game Geek, mais avec des gens dont j'avais pas du tout la moindre idée de l'âge, et comme en général, quand on s'adresse à quelqu'un qu'on connaît pas, en fait, on s'imagine comme soi. Donc moi, quand je parle à quelqu'un, j'imagine qu'il a 30 ans, qu'il est blanc, qu'il a une femme et qu'il a deux gamins. Sauf que, en fait, c'est rarement le cas, en fait. Il n'y a pas tant de personnes qui sont dans ce cas-là.
Oui, c'est sûr que statistiquement...
Mais souvent, en fait, c'est un défaut qu'on a en général. Et j'avais été surpris d'échanges avec une personne qui, en fait, n'avait pas du tout le même âge que moi et qui en plus, m'avait appelé, et même à la voix, j'avais pas du tout relevé la différence, et j'en étais plutôt content après coup, parce que de se dire, en fait, l'âge, c'est pareil, en fait, c'est pas du tout une barrière, enfin, la preuve, je savais même pas qu'il avait 20 ou 30 ans de plus.
La question serait de savoir, est-ce que vous seriez comporté différemment si ça avait été une femme qu'un homme?
Ben justement, moi, je trouve que c'est le gros intérêt d'une communauté en ligne, que ce soit Board Game Geek ou une autre.
Exactement.
C'est que tu peux t'intéresser d'abord prenons l'exemple de Board Game Geek et du Print and Play, tu peux t'intéresser d'abord à ce que produit la personne, que ça soit en termes de réalisation ou en termes d'invention ou de création. Et puis, quelque part, tu te trouves une affinité avec des gens, non pas parce que visuellement il te plaît ou parce que vous êtes du même âge ou parce que, mais tu trouves une affinité par la passion, par la chose qui te rapproche de toute cette communauté, c'est la passion. Sinon, tu serais pas dans la communauté. Et donc, tu te crées des affinités avec des gens avec qui, s'il faut, t'aurais jamais pris le temps de faire connaissance. Et une fois que t'as cette affinité avec ces gens-là, tu as envie d'en savoir plus parce que tu as envie de rentrer en contact personnellement avec eux. Et moi, je trouve ça vachement sympa que ça se passe dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens où, en général, les gens, tu les connais d'abord par le boulot ou autre avant de t'intéresser à leur passion, à leur réalisation. Et moi, je trouve ça super sympa comme ça.
Oui, il y a des barrières qui ne sont plus là à partir du moment où il y a le côté anonyme de la machine, de réseau, où en fait on ne sait pas qui est la personne en face, mais c'est pas grave à partir du moment où on arrive à discuter, on arrive à échanger.
Bon alors, c'est bien tout ça. Maintenant, on va revenir à nos bons vieux clichés, parce qu'on est quand même dans un épisode rose, il faut qu'on ait un peu des clichés. Alors, est-ce que d'après toi, la créativité, les loisirs créatifs, c'est quelque chose de plutôt féminin?
Alors, je dirais que non, c'est juste une façon de penser différente au niveau de la créativité. Je m'explique, je dirais que pour les créateurs de jeux masculins ou les designers masculins au niveau des jeux de société, je dirais que pour eux, il s'agit toujours de problèmes à résoudre. Donc, par exemple, quelles sont les probabilités, par exemple, si je tire une carte, d'arriver à tel résultat pour que le jeu soit à peu près équilibré. On va chercher l'équation, on va chercher tout ça. Et je dirais que le côté féminin au niveau de la créativité, c'est-à-dire on va avoir une idée générale de ce que l'on veut et on va aller petit à petit dans les détails et dans la façon de jouer pour voir si ça correspond à ce qui est fait. Donc la créativité, ce n'est pas un problème en tant que tel pour les hommes ou pour les femmes, c'est la façon de réfléchir à comment arriver à un résultat en fait, je dirais.
Mais t'es quand même bien d'accord avec moi, je vais rentrer à fond dans les clichés, t'es
Vas-y.
Quand même bien d'accord avec moi que à Cultura, au rayon Fimo, on croise plus de nanas que de Ultra Lord avec son gros marteau.
Mais c'est normal, parce qu'elles ont des enfants, le Fimo ça marche très bien les enfants, il n'y a pas que des femmes qui achètent pour les femmes, c'est des femmes qui achètent pour des enfants. Je dirais qu'il n'y a pas que le Fimo dans la vie, il y a aussi tout ce qui est magasin de modélisme. Eh oui,
ouais.
Parce que il n'y a pas que Cultura dans la vie, il y a aussi les magasins de modélisme avec des choses un petit peu plus intéressantes, plus spécialisées et en même temps qui peuvent être très utiles.
Ça marche bien, t'as vu, on met bien des gros clichés et puis tu les casses, c'est bien, c'est super. Qu'est-ce que Alexis, tu rajoutes quelque chose, tu parles un peu
alors attends que je relise les questions que j'avais mis. Ouais non, c'est
Ouais, bon, on a un peu
tu
fait plus ou moins le tour.
Question, hein.
Oui.
Est-ce que toi,
sur
tu
la
vois...
thématique, ouais.
Ouais, Sonia, est-ce que tu vois des spécificités dans les productions féminines, que ce soit vraiment, enfin, tout le prix
La Fimo
ouais, non, mais bah, je vais en parler après, justement, ça tombe bien.
Disons que des productions féminines, je n'en ai pas, en tant que création, en tant que créatrice de jeux, je n'en vois pas des masses, forcément. Il y a toujours des échanges d'idées, mais en même temps, je dirais que au niveau design, il y en a pas mal pour ce qui est de faire des designs de cartes, de design de jeux, ce genre de choses. Mais en production féminine, je n'en vois pas forcément beaucoup. Et je pense que la meilleure façon de pousser un petit peu la chose, je dirais, c'est de participer au concours qu'il peut y avoir pour voter sur, par exemple, les PNP qui se jouent pour 2 joueurs, les PNP qui se jouent à 4. Vous voyez le genre de concours que l'on fait
ouais.
pour chaque année pour sortir peut-être entre créateurs de jeux, je dirais, un jeu potable. On se donne 6 mois, 1 an, on sort un jeu pour le concours, après l'avoir testé avec des gens, forcément. Et donc là, j'aimerais voir un petit peu plus de participation féminine, c'est vrai.
C'est vrai que moi, je serais incapable de citer une auteure de jeu féminine.
Mais moi, oui.
Exactement.
Non, mais
ah bon
moi, oui. Rebecca, je sais plus quoi.
Oui,
qui a bossé,
le truc avec les coccinelles.
Ouais, et sur Inspector Moss aussi. The Gaston Game et Inspector Moss. C'est Rebecca Warren,
non,
peut-être,
mais c'est,
je sais
c'est
plus.
Rebecca, ouais.
Rebecca
mais
quelque
on
chose.
N'en connaît pas beaucoup,
Il y en a pas beaucoup.
Fait.
Mais ta question,
que...
Alexis... Pardon, excuse-moi. Ta question,
ouais, non,
Alexis, elle portait sur la
oui,
l'invention,
que...
la fabrication.
Bah, y a
c'est
aussi
pas
tout
à fait pareil.
Tout ce qui est goodies à côté, enfin, parce que sur Board Game Geek, bon, il y a des gens qui créent des jeux, mais aussi des gens qui vont créer plus des accessoires pour des jeux, comme
oui.
Ce que j'ai fait pour Love Letter, dont on parlera
ouais,
tout à l'heure, en faire des petits jetons. Il y a aussi pas mal de personnes qui font de la création. Alors, ça peut être de la fimo, du modélisme, il y a plein de choses. Voilà, et c'était voir si aussi là il y avait des productions plutôt féminines ou pas. Mais moi je peux pas y répondre parce que comme je ne sais pas qui est homme et femme sur le
oh ben
Board Game Geek.
La pro de la fimo c'est Mélodie sur Board Game Geek,
oui.
Sunshine je crois que c'est son
oui,
pseudo.
Oui.
Qui met des chats dans tous ses print and play.
Yes. C'est ça.
Et oui.
Est-ce que les chats, c'est quelque chose de particulièrement féminin?
Je sais pas, mais ça marche bien sur Internet avec les lolcats, hein.
Ouais.
Non, bah après, moi, j'avais pas spécialement de questions.
Sur les thématiques, est-ce que
oui.
toi, sans forcément finalement se poser la question en tant que femme ou en tant que joueuse, mais est-ce que toi, il y a des thématiques qui te rebutent ou au contraire des thématiques qui t'attirent?
Alors, ce que j'aimerais voir un petit peu plus au niveau de la thématique féminine, je dirais, c'est que je ne suis pas contre les jeux de guerre en tant que tels, mais par exemple, si on doit faire des jeux de société, des jeux de plateau avec des réalités historiques comme fond, je dirais, il y a le potentiel à ce que l'on utilise des femmes dans des rôles qu'elles ont eus pendant la Deuxième Guerre, par exemple, soit dans un jeu de plateau d'espionnage ou, par exemple, ces fameuses dames anglaises qui avaient combattu les nazis.
Toi, t'es une lectrice de Ken Follett.
Non, j'ai vécu 10 ans en Angleterre.
Ah oui, d'accord. Non, parce que j'ai lu un bouquin là-dessus, justement, sur 4 nanas.
Oui, mais il y en avait pas que 4, hein, je certifie. Et donc, si on avait des jeux qui soient un peu plus... qui mettent en valeur par rapport à ça des réalités historiques, ça aiderait peut-être un petit peu plus par rapport aux jeux de guerre, aux jeux d'espionnage. Voilà, ça, ce serait intéressant. Et en même temps, des sujets ou des thèmes qui rebutent, je dirais, en général, les jeux de guerre, les attaques et tout ça, juste pour attaquer des terrains, pour arriver, tout ça avec du matériel, c'est le genre de choses qu'en fait, on a une tendance à être naturellement rebuté, en fait, c'est vrai. Mmh. Après, certains graphismes sont encore trop sexistes aussi, hein. Et il y en a marre soit de ces femmes elfes en bikini de côte de maille, vous voyez ce genre de choses. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc,
moi, j'en ai pas marre personnellement, mais bon.
Et oui, mais ça, c'est participer au stéréotype du joueur de jeu de société qui serait célibataire, un petit peu dans son coin, hein, qui n'aurait pas vu une femme de sa vie. C'est aussi ça joue contre l'homme, le mâle en tant que tel aussi. C'est-à-dire de mettre des stéréotypes féminins, ça fait croire que les joueurs de jeux de société sont célibataires. Vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait.
Ouais, donc ça va dans les deux sens, c'est-à-dire le plus on sera sexiste quelque part et plus ça va jouer contre nous. C'est pas comme si les joueurs de société, maintenant il y en a de tout âge, de tout bord, et je dirais plus personne ne se fait comme ne passe de temps sur des jeux de société comme au Japon où les otaku qui sont sur l'ordinateur jour et nuit, ce n'est pas possible, ce n'est plus comme ça. Voilà.
On est bien d'accord. Et bon, je crois qu'on a un peu fait le tour des questions qu'on avait préparées. Pardon, excuse-moi, vas-y.
Ouais, je pensais à un thème qui est marrant et qui, justement, mais tu en as déjà parlé, Guilin, c'est justement d'aborder le sexisme, mais la relation de couple. C'est le jeu, dont tu diras le nom, où on se tire la couverture.
Ah oui,
et y a ça.
Cover Quarrels, ouais.
Voilà. Et un autre que Iso Bretnik avait fait, And Then We Hold Hands, où en fait c'est, bon, celui-là est thématiquement moins drôle, puisque c'est un couple au bord de la séparation qui essaye de se rabibocher, donc c'est beaucoup moins, il est moins joyeux que le premier, mais très abstrait et qui aborde justement en fait la complexité de la relation homme-femme d'une manière générale, et voilà.
Et ça peut faire un jeu de société intéressant en soirée entre amis, entre couples, où en fait c'est un peu une guerre des sexes quelque part.
Mais moi, il faut que je fasse celui où on se tire la couverture.
Ouais, il est rigolo.
Je pense qu'il est offert. Très, très drôle.
Ouais, je l'ai offert à mon cousin pour son mariage.
Bye.
Bon, je crois qu'on a un peu fait le tour des questions. Alors, bon, évidemment, t'hésites pas à intervenir sur le reste de la rubrique, Sonia.
Oui.
Avant de passer à la suite, j'aimerais que, si tu veux, que tu nous donnes un ou deux noms de jeux en PNP que tu aimes particulièrement, que tu voudrais conseiller.
Et
peut-être une astuce particulière, un truc, ton coup de maître à toi, le petit truc que tu voudrais donner comme astuce aux auditeurs.
Alors, je suis sur le site internet, là je regarde ma collection en direct, hein, une seconde, parce que bon, c'est internet. Hein. Alors, un jeu que j'aime particulièrement, c'est Agricola, d'accord.
Ouais. Mais je parle en print and play, là, ça c'est pas du print and play.
C'est vrai que la moitié de ma collection est print and play, alors visuellement, je vais dire, hein, parce que là j'ai mis la liste, j'en ai plus d'une centaine, j'en ai... 120, 129 en print and play. Alors je vais dire Fish Cook.
Ouais.
Alors Fish Cook, là où c'est intéressant en fait, c'est en deux parties. C'est un jeu où, en fait, on doit récupérer des ingrédients pour après les cuire. Et en fait, c'est un petit jeu qui était gratuit, publié par un éditeur américain qui s'appelle Cheapass, et qui avait été fourni gratuitement en print and play pour les gens qui voulaient essayer le jeu, puisqu'il y avait une version bêta à essayer. Et à partir de là, j'ai fait une superbe version avec des petits cubes pour mettre sur les deux plateaux, des dés, enfin des tout pour pouvoir jouer le jeu correctement en fait. Et là, j'ai été sacrément étonnée. J'ai apprécié l'idée de la compétition autour de la nourriture et ce qu'elle valait, parce que les ingrédients avaient des valeurs différentes, et donc à partir de là, cuisiner ce qu'il fallait. Alors, après, qu'est-ce que tu m'avais posé comme question? Je suis désolée.
Si tu as une astuce à nous donner, un truc que tu as fait, par exemple, quand tu as fait l'un des jeux que tu as fabriqué, la petite astuce que tu as trouvée, que tu t'es dit, ah ça, c'est la bonne astuce.
Alors, Alors, la meilleure des astuces pour faire un jeu de plateau, enfin un plateau lui-même, c'est de récupérer un vieux plateau d'un vieux jeu que l'on peut trouver dans toutes les boutiques bric-à-brac que l'on peut trouver. On récupère ça pas cher et en même temps, on imprime le design pour coller, vous voyez, en papier adhésif A4, vous voyez ? Mmh. On le découpe, on le colle sur le plateau lui-même. Et en même temps, j'utilise, vous voyez, le plastique des livres à recouvrir. Vous voyez le plastique des livres
pour le rouleau.
Qui est adhésif.
L'adhésif. Et en fait, on passe ça sur le plateau en faisant attention aux bulles, hein, forcément. On prend une règle avec ça pour bien le poser droit. Et en fait, c'est nickel après au niveau du plateau. Hein. C'est on peut jouer dessus, renverser de l'eau, pas de problème. Hein.
Ben tu vois, c'est super parce qu'on a fait un épisode dédié à la création de plateaux et ça, on n'en a pas parlé. Ouais, donc, voilà. Comme quoi, t'as bien fait de venir.
Ben, il n'y a pas de problème.
Bon, mais écoute, Alexis, t'as quelque chose à rajouter ?
Ben non, ben merci Sonia, mais et puis on le redira à la fin parce que tu vas encore nous dire plein de choses.
Alors on va en profiter. J'ai le temps, pas de problème.
Allez, vas-y Alexis, on voit alors.
Alors du coup, ben on va continuer avec une chronique fabrication, et puis aujourd'hui on va s'intéresser à Love Letter. Alors j'en profite pour annoncer un petit peu l'orientation de la saison 2, en tout cas pour mes parties de chronique. En fait, l'idée, c'est pour la prochaine saison, c'est plutôt de partir sur un jeu éventuellement existant, donc la Love Letter existant que tout le monde connaît, et puis de voir en quoi, quel matériel on va pouvoir apporter pour essayer d'enrichir l'expérience de jeu, de le rendre un petit peu plus sympathique, un petit peu plus joli, et puis voilà. Donc, Love Letter, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et puis moi j'ai choisi simple, j'ai choisi de faire des petits cœurs en Fimo, parce qu'on était sur l'épisode rose, alors je me suis dit on va faire un truc bien cute, bien cliché, des petits cœurs en pâte Fimo. Alors la pâte Fimo.
Mais tu l'as pris marron bien sûr.
Non.
Vert kaki.
Je l'ai pris rouge. Je l'ai pris bien rouge pétant.
C'est bien.
Faudrait que je les vernisse pour qu'ils soient encore plus brillants. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment on fait de la Fimo quand on débute, parce que j'avais encore quasiment jamais fait de Fimo. Donc des petits cœurs en Fimo. Alors j'ai utilisé plusieurs techniques. Je suis allé voir sur internet un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver pour faire des cœurs. Alors la technique qui ne vous demandera le moins de matériel, c'est de faire les cœurs à la main. Alors par contre, le résultat il est assez moyen parce que vous aurez pas des petits cœurs qui se ressemblent et puis c'est pas régulier, c'est pas top. Donc la deuxième technique qui est la plus simple, c'est de prendre un petit bout de Fimo. Alors déjà, pour ceux qui n'ont jamais travaillé de Fimo, en fait, quand vous commencez, vous la prenez, vous faites une boule avec et vous la tournez dans votre main, ça permet de la réchauffer et de la malaxer un petit peu, et du coup elle est plus facile à travailler. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir l'étaler, faire une plaque avec un rouleau type rouleau à pâtisserie. Moi j'ai utilisé un petit rouleau à pâtisserie de ma fille qui s'en sert pour faire des... donc pour avoir une plaque bien droite, enfin bien plate. Et le plus simple, c'est d'utiliser des emporte-pièces. Alors le problème, c'est que si vous voulez faire des petits cœurs, il faut des tout petits emporte-pièces. Alors là, je vais pas expliquer comment on fait là maintenant, parce que j'ai fait des articles pour une fois sur mon blog, donc je les publierai à temps ce coup-là, pour expliquer comment faire de tout petits emporte-pièces avec pas grand-chose. En fait, l'idée, c'est d'utiliser des canettes de soda, de les découper pour faire des bandelettes d'alu, et en fait, de les attacher de sorte à faire des emporte-pièces.
Et ça se tient bien, ça se déforme pas dans tous les sens.
C'est, ça dépend ce qu'on veut faire. Si tu veux faire des trucs super compliqués, c'est très compliqué. Mais si tu veux faire des choses toutes simples comme un cœur, c'est vraiment hyper simple à faire. J'en avais jamais fait et j'ai fait ça en pas très longtemps. Donc non, ça se fait très très bien. Mais je rentre pas dans les détails parce que ce coup-là, j'ai des articles pour ça. Donc au pire, j'en reparlerai une prochaine fois. On a plein de choses à évoquer. Donc l'avantage des emporte-pièces, c'est que du coup, bah là, tous les cœurs que vous allez faire, ils sont à peu près identiques. Le problème, c'est que du coup, faut arriver à sortir les cœurs des emporte-pièces. Donc là, bon, bah, faut trouver la petite technique, arriver à appuyer avec un stylo sans trop forcer pour pas marquer. Parce que le problème de la Fimo est qu'il marque très facilement dès que vous appuyez dessus. Alors si vous travaillez par exemple sans gants, facilement vous allez avoir les traces de vos empreintes digitales sur tous les jetons. Alors après c'est un style, c'est pas forcément gênant, mais si vous voulez pas ça, soit vous mettez des gants, soit vous repassez un petit coup de rouleau après. Donc ça c'est la deuxième technique qui est à mon avis la plus rapide, mais qui donne pas forcément les cubes les plus sympas. Et la dernière chose que j'ai faite, qui par contre là vous donnera pareil pas des cubes qui sont identiques, c'est de les découper au cutter ou au scalpel dans la plaque, dans une plaque de Fimo. Donc vous étalez votre plaque de Fimo comme pour avant, et puis vous marquez le dessin avec une pointe, et puis après vous allez bien reformer les bords, etc., avec des outils de modelage. Donc moi j'avais acheté un kit d'outils de modelage à 5€ dans une boutique de modélisme, enfin de loisirs créatifs, qui faisait plein de choses, et voilà. Donc bon, là c'est difficile de vous parler du résultat. Le plus simple, c'est je mettrai des photos dans l'article.
Bah tu peux déjà nous dire ton avis quand même.
Alors
tu...
oui, ben bah oui, quand
alors,
même.
Alors moi ce que je préfère finalement, c'est ceux que j'ai fait, c'est de pas avoir des cubes réguliers, parce que du coup ça donne, avoir exactement les mêmes jetons, c'est pas forcément toujours sympathique. Et finalement ce que je préfère, c'est ceux que j'ai fait en découpant au scalpel. Comme ça. Alors ils ont à peu près la même forme, parce que bon, un cœur ça reste un cœur, mais voilà, il y en a des un petit peu plus petits, des un petit peu plus gros, et voilà, c'est sympathique. Par contre, si vous voulez produire plein de cœurs, effectivement avec les emporte-pièces c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc juste en termes de temps, d'ailleurs en fait j'ai pas terminé, parce que une fois que vous avez fait ça, vous avez de la Fimo mais qui n'est pas cuite. Alors la Fimo ça se cuit une demi-heure. Alors je sais jamais si c'est 110 degrés ou 130 degrés, c'est pas compliqué, c'est marqué sur le sachet. Comme ils sont bien cachés, je vais pas sortir mes paquets pour vous dire, je le mettrai bien dans l'article. Mais il y a une deuxième chose, c'est que si vous les cuisez pas assez, c'est pas très grave, parce qu'en fait ça se recuit, la Fimo. Si j'ai bien compris, en fait, quand vous cuisez, c'est juste que ça va faire sortir toute l'eau qu'il y a dedans. Et donc, plus vous le cuisez, moins il y a d'eau. Donc, si vous avez pas enlevé toute l'eau qui est dedans, en recuisant un petit peu, du coup, vous arriverez à avoir une Fimo qui est bien dure. Donc, ça
se déforme pas à la cuisson?
Alors, ça se déforme pas à la cuisson, sauf si on la laisse trop longtemps. Enfin, c'est plus d'ailleurs qu'elle noircit plutôt qu'elle se déforme. Ça bouge vraiment pas. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, tant qu'elle n'est pas encore refroidie, elle est encore un petit peu molle. Alors, comme j'étais plus sûr de la température quand je l'ai fait, moi j'ai fait à 110 degrés et ça a cuit un petit peu plus qu'une demi-heure. En fait, je prenais mes jetons et puis j'arrive encore à les tordre. Alors du coup, je m'étais dit que ça devait pas être le temps qu'il fallait. Je les ai remis un petit peu plus longtemps. Donc les miennes, elles ont dû rester 40 minutes. Pourtant, c'est pas très épais ce que j'ai fait, mais ça a pas noirci. Donc ça reste quand même un matériel qui est assez simple à travailler, qui est pas hyper cher là. Alors un bloc de Fimo, un standard, les 56 grammes en général, c'est un tout petit peu en dessous de 2€. Et là, j'ai utilisé, je sais pas, j'ai pas utilisé un cinquième, et j'ai combien de cœurs? J'ai 15 cœurs, je crois. Donc, enfin, de toute façon, je mettrai la photo. Donc voilà, pour vous pouvez faire 50 cœurs pour 2 euros, et le temps qu'il faut pour ça. Donc si vous voulez faire des emporte-pièces, ça vous coûtera une canette de coca en plus. Et puis et puis voilà. Donc je suis content de ma première réalisation en Fimo. Et puis bon, on en fera d'autres, et puis on essaiera de faire des choses un petit peu plus compliquées que des cœurs. Mais ça sera pour la saison 2.
Alors, tu crois que ton love letter il plaira plus aux filles maintenant?
Déjà moi il me plaît plus à moi, donc ce qui est déjà
ça, c'est
bien.
Ton côté féminin.
Ben oui, ça doit être ça.
Non, mais je vais dire quelque chose quand même, c'est que quand c'est fait de ses mains, c'est autre chose.
Ah ouais.
Ouais, ça non, pas photo, je suis d'accord. Vraiment, c'est vraiment personnalisé. Alors en plus, moi j'ai toujours pas acheté de love letter. Je vais le faire un jour quand même. Je me suis fait un love letter, c'est celui qui est illustré par j'ai plus son prénom, mais son nom de famille c'est Bourgeois. Il l'avait publié sur le site Gus & Co.
Celui avec le requin là.
Ouais, avec des animaux que moi je trouve magnifiques, donc je me suis imprimé celui-là, que j'ai fait grâce au merveilleux conseil de Bruno Desmontagnes. Qui donc conseille d'utiliser du plat de couverture pour faire les cartes en utilisant du papier adhésif, enfin des feuilles A4 autocollantes, et c'est ce que j'ai fait, et effectivement je confirme, ça se mélange très très bien, et enfin c'est voilà, je pense que je ferai toutes mes cartes comme ça maintenant, à peu de choses près.
Non plus cher que du papier plastifié quoi.
Ouais, mais attention, le résultat est vraiment moi je suis pour ce jeu là c'est vraiment le premier beau jeu que j'ai quoi, celui-là.
D'accord.
Après sinon c'est des sous-sleeve, mais parce que j'avais fait un The Empire Engine que je trouve aussi très très beau, mais qui était tout simple, c'était juste du, parce que c'était en papier épais, j'avais pris deux feuilles de 160 grammes, donc c'est des cartes en 320 grammes par mètre carré, c'est des cartes épaisses, donc c'est vrai que c'est agréable à manipuler, mais elles restent quand même sous protège cartes en plastique. Et du coup, ça fait pas le même effet. Que là, c'est vraiment des cartes papier que tu manipules et tu as la texture du papier. Donc voilà. Par contre, effectivement, c'est pas le même prix parce que mes 100 feuilles de plat de couverture, je les ai payées 13 euros. Donc, c'est bon. Après, je suis allé mon fournisseur du coin, qui est juste à côté de chez moi, mais qui doit être le plus cher aussi de la région. J'en avais besoin rapidement, donc j'ai payé la disponibilité rapide, comme on dit.
Oui.
Voilà. Petite question, Sonia, toi tu travailles un petit peu la FIMO, ou c'est un truc que t'as jamais trop fait?
J'en ai fait, parce que là je suis en train de construire ma version du jeu The Island. Vous savez, celui avec les requins, les petits monstres de la mer qui cherchent à attraper un petit peu les nageurs là. Et donc j'ai fait quelques requins, enfin des dos de requins en FIMO, ainsi que j'ai fait mes petits palais pour faire donc l'île elle-même en tant que telle. Et je suis en train de construire mes baleines.
Ah oui, donc quand même tu fais un petit peu de FIMO. Ça fait quelques pièces.
Oui, il faut bien aérer le four après, hein. Sinon c'est toxique après pour cuisiner la nourriture. Je le dis, je le précise, toujours faire attention de bien aérer le four après.
Et donc, sinon sur Love Letter, il y a plein de faire aussi. Donc j'en citais pas mal, hein. Il y en a plein d'autres. Mais de toute façon, on en reparlera à la saison 2 parce que on reparlera sans doute de Love Letter si je fais d'autres choses avec. La première chose, c'est tous les accessoires du jeu qu'on va pouvoir faire. Donc les jetons, on peut les faire de plusieurs façons. Bon, on peut faire des jetons en carton. Alors moi il me semble que j'avais vu ça sur Board Game Geek, mais j'ai pas réussi à le retrouver. C'était des petits cartons en forme de lettres, avec un petit cœur rouge dessus. Comme j'ai pas réussi à les retrouver, je les ai fait moi-même. Donc en faisant des tokens classiques, en utilisant du papier autocollant et des calendriers, etc. On peut faire des jolis petits tokens pas trop gros et qui remplacent joyeusement les petits cubes rouges. Bah après il y a tout ce qui est FIMO, etc. Les alors en FIMO j'avais vu aussi des petites roses. Enfin il y a quelqu'un qui avait fait des petites roses.
Oui.
Des petites fleurs de rose qui ouais. étaient très jolies.
Qui ressemblent à celles que l'on trouve sur les gâteaux de mariage ou ce genre de choses. Vous ouais. savez qui sont en pâte d'amande, vous voyez.
Oui. Ouais.
Bah, je ne comprends pas le boulot à faire ça en FIMO quoi.
Ça c'est clair.
Mais c'est tout petit en fait, mais a priori ça se enfin j'ai trouvé des trucs mais j'ai pas eu le temps de les faire comme trois quarts des trucs que je mets dans des coins. mais un jour je les ferai. Moi j'ai pensé à un truc qui peut être marrant, c'est les jetons parfumés. Alors là c'est plus pour offrir mais voilà, l'amour, tout ça, le parfum. J'ai vu aussi des fleurs en tissu. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'essayer de faire des petites roses ou ce genre de choses, mais en tissu. Et si vous les faites suffisamment petits, ça peut remplacer joyeusement vos tokens. Donc voilà pour la partie jetons. Pour la partie carte, bah après il y a 1 million de fan art qui existent
oui.
et qui continuent d'être ajoutés régulièrement. Donc bah pour les gens qui veulent s'occuper, vous pouvez faire vous-même vos propres cartes. Et il y a plein d'outils pratiques pour faire ça. Et puis si jamais vous avez besoin de conseils là-dessus, bah n'hésitez pas à nous le demander. Un truc sympa aussi, c'est les boîtes. Alors les boîtes, c'est un enfer pour les gens qui font plein de print and play parce que bah, c'est pas toujours simple d'avoir des boîtes qui sont à la bonne taille. Et pour Love Letter, en fait, moi j'avais envie de me faire une boîte en forme de cœur, donc avec une partie qui permette de bien placer les cartes, et puis sur juste un petit bout de rond qui reste, de pouvoir faire un endroit pour pouvoir placer tous les jetons en forme de cœur ou autre.
En fait, comme si c'était une boîte de chocolat pour la Saint-Valentin, quoi.
Ouais, et en fait, de laisser en fait la pointe du cœur, de mettre les cartes à cet endroit-là, quitte à ce que ça déborde un peu sur l'arrondi, et puis de bien faire un petit emplacement pour mettre les jetons, que ça abîme pas les
cartes. Du coup, t'as plus simple. T'attends que ça soit la Saint-Valentin, t'achètes une boîte de chocolat, bouffes les chocolats et tu mets ton jeu dedans.
Mais tu sais que j'ai...
Faut les demander à Forrest Gump.
Mais j'ai une boîte en forme de cœur. Le problème, c'est qu'elle doit faire 4 cm. Donc là, mes cartes... Ouais.
Tu fais un jeu mini, là.
Ouais, mais déjà, mon jeu, là, les cartes font moins de 4 cm de haut. Ouais, si elles font peut-être 4 cm, mais elles font pas beaucoup plus. Donc après, ça va être difficile de jouer avec. Et puis voilà, donc après bon, on peut faire plein de choses, faire un love letter géant. Alors d'ailleurs j'en profite parce que j'avais vu passer que c'est le club d'Annecy qui avait lors d'un salon laissé à disposition le love letter géant, et malheureusement à la fin du salon il n'y était plus.
Il a été volé.
Donc si jamais vous êtes sur Annecy et que vous voyez en marché d'occasion un love letter géant, éventuellement passez un petit message à Annecy Ludique et puis voilà. Et puis si jamais c'est vous qui l'avez pris, ben vous faites un truc tout simple, hein, vous le mettez dans une enveloppe sans mettre votre nom, sans rien, et puis vous le redéposez, parce que c'est vraiment pas super sympa ce genre de pratique. Donc clair. Voilà.
Ceci étant dit, moi j'ai joué au Love Letter géant à Toulouse. Ouais, c'est vraiment pratique. Nul pour jouer. Hein.
C'est pas pratique. Ouais, mais pour faire de l'animation,
ouais, c'est
ouais. super pratique.
Bien sûr, bien sûr.
Et voilà. Et d'autant plus si c'est pas pratique pour jouer, d'aller en chou rien sur un salon, c'est juste minable.
C'est nul.
Donc
c'est
voilà. Et puis, alors qu'est-ce que j'avais mis? Oui, non, mais là, je relis avant parce que j'avais intitulé ça « Technique complètement barrée », donc ça laisse...
ouais, pas non, parler des sachets en tissu.
Oui, si, ben en fait, il y a des éditions qui ont des sachets en tissu, mais vous pouvez vous faire des beaux sachets en tissu brodés et tout. Moi, personnellement, je sais pas faire, mais ma femme fait ça très 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 bien, donc je la mettrai peut-être, je lui demanderai peut-être pour avoir un joli sac. Et voilà. Ah si, et dernière chose, il y a des personnes qui ont fait des jetons en 3D et en forme de lettres, et d'ailleurs qui les vendent, et c'est magnifique. Par contre, c'est deux fois le prix du jeu, donc à voir. Mais non, mais ça vient juste de tomber sur Board Game Geek là.
C'est quoi des jetons? En fait, c'est en 3D.
Ouais, avec un seau de dessus en fait.
J'y avais pensé.
Il est très très beau, mais par contre, il vend les 13 jetons pour 13 euros, donc ça fait.
Ah ouais, d'accord. Voilà.
Mais bon, après.
En même temps, si tu te dis le temps que ça a dû prendre au mec.
Aussi. Oui.
Bah maintenant, il a son modèle d'impression 3D. C'est un bon business maintenant. Mais oui, effectivement, tout travail mérite salaire. Donc voilà pour un petit peu les idées qu'on voulait vous donner. De toute façon, on en reparlera parce que comme je disais en début de chronique, pour la saison 2, en tout cas pour ma partie, j'essaierai plus de partir d'un jeu et pas forcément d'un jeu à faire en entier, mais de voir finalement comment on peut enrichir l'expérience de jeu, comment on peut pimper un jeu pour le rendre un petit peu plus attrayant pour voilà, parce que c'est sympa aussi d'avoir sa version à soi, ses petits accessoires, après moi je suis très collectionneur, donc c'est quelque chose auquel je suis très sensible, et du coup ce sera plus simple que de vous redire comment faire des cartes. Voilà. Guylain, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter?
C'était une belle rubrique sympa, bien interactive, comme on n'en fait pas souvent.
Et bien
reproché la dernière fois d'avoir fait un peu trop du monologue. Là, franchement, je suis content.
C'est bien.
Du coup, merci beaucoup, Sonia.
Ouais. Merci à vous tous. C'était avec plaisir.
Mais on pourra remettre ça à l'occasion si le sujet s'y prête. Avec grand plaisir.
Si le sujet s'y prête pas et qu'elle a envie, attends, on va pas lui dire non, le sujet s'y prête pas, tu restes chez toi.
Je n'ai pas peur des autres joueurs et des geeks, faut pas croire, hein.
Donc très bien,
Alors maintenant vous savez quoi faire de vos 10 doigts.
Jouez bien.
Et puis pour conclure ce 56e épisode de Proxy Jeux.
Bravo.
Ah, je me suis pas trompé, je me trompe entre janvier et juin, mais 55 et 56, ça va. Je sais compter. Même après 1, 2, 3... Trop de bière. Jérémy.
Oui.
Tu voulais... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on va laisser la parole à Marilyn, qui veut nous présenter un jeu.
Ah bon?
Allez, top, c'est parti. Top, vous avez 5 minutes.
Ah, d'accord. Je vais présenter un jeu. Alors, hier, j'ai joué à Quarriors. C'était vachement bien. C'est du dice building. Je vais y arriver.
La version française.
Construction de 7 de dés. C'est la version française, tout à fait.
Par un trafin.
Traduite par notre ami Bardatir. Du coup, voilà, on était bien contents parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de textes sur les cartes des créatures. Des fois, c'est pas évident d'ailleurs, même en français, de capter comment ça marche. Et une fois qu'on a bien capté, c'est vraiment très sympa comme jeu. On peut faire des parties comme ça en 20 minutes. Hop, on sort la boîte. L'autre jour, mon homme partait, devait aller prendre l'avion. On avait une demi-heure. Allez, on fait un jeu. Hop, on a sorti Warriors et paf.
Et est-ce que t'es pas trop frustré quand tu dois lancer un dé, faire un dragon, d'avoir...
Un qui sort. Ouais. Bah si, ça fait partie du jeu quand tu joues un jeu de dés. Mais ouais, c'est sûr que le dragon, t'as envie qu'il envoie du pâté et que des fois, il fait rien du tout. C'est la vie.
Du coup, vous y jouez à deux.
On y joue bien à deux, mais aussi à plus. On a fait des parties à quatre aussi. C'est plus long. Moi, j'aime mieux à deux.
J'ai trouvé déséquilibré à quatre.
Ouais, c'est
le quatrième joueur, il est vraiment à un cran de retard. Quoi.
Ouais, c'est plus difficile de revenir dans la partie quand t'es à la ramasse. Alors qu'à deux, c'est vraiment très interactif, très vivant. Moi, j'aime bien. J'aime bien les dés, alors j'aime bien Quarriors.
Un jeu d'affrontement.
Ah, t'aimes bien les dés, fallait déjà le dire au départ.
C'est un jeu d'affrontement.
J'aime bien les cubes en bois avec des points ou sans points.
Et alors, ouais, parce que, ouais, le fait qu'ils soient en français, par contre, ça doit être long. Déjà en anglais, c'était long. La typo était. Enfin, la fonte, la police utilisée était une catastrophe.
Oui.
C'était illisible. Ça.
Mais ouais. Peut-être le problème, c'est d'avoir dit pour plus de rejouabilité, on va prendre le même monstre, enfin, la même créature, et on va lui mettre 3 ou 4 capacités différentes. Enfin, ça reste toujours dans le même type de capacité, mais. C'est peut-être un peu la difficulté, enfin, c'est pas un problème, mais c'est à la fois bien parce que ça renouvelle le jeu, et à la fois c'est pas bien parce que il y a beaucoup de choses à dire, ça change beaucoup.
Oui, une fois que tu as joué une fois toutes les cartes, c'est bon quoi. Mais bon, comme ça, tu mets un petit temps avant d'en faire le tour.
Ouais.
Et du coup, par contre, il n'y a pas d'extension encore en français.
Non, normalement, il devrait y en avoir.
Ouais, mais... parce qu'il y en a pas mal en anglais.
Ouais, oui, il doit y en avoir 4, je crois.
Oui, ouais, c'est vrai.
Je pense que c'est prévu aussi par Intrafin, mais quand ?
On peut être pas sûr. Et donc, tu le recommandes pour sa rapidité de partie ?
Bah, une fois que tu as compris le système, c'est fun, c'est rapide, c'est interactif. Donc, moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien le building. Donc,
le pack building.
Ouais, le pool building. Parce que maintenant, il y a du bag building, du ouais, dice building, deck building. Donc,
quoi, dans Puzzle Strike, c'est pareil. Tu construis un... C'est finalement dans un ouais. sac, je crois que tu ouais. l'aimais aussi. Ouais. Même principe. Quarrier, c'est un jeu de Mike Elliott et Eric Lang chez Intrafin en français. Mm. Pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Facile, 8 ans.
Ouais.
Tu descendrais à 8 ans, non 10 ans.
Je sais pas, le tour de jeu est peut-être pas super simple à comprendre quand même.
Bon, alors 10 ans.
Ça veut dire 10 ans, ouais. Après, c'est toujours pareil, gamin joueur ou.
Ouais, ah, ouais. Bah bon. Pour 30 minutes environ et c'est 49 euros chez Philibert.
Toi, Eve, un
Quarrier,
jeu.
C'est le nom.
Pardon.
Non, parce qu'il demande. Je crois. Il redemandait le nom.
Donc,
Quarriors.
Quarriors.
Un jeu.
On a joué à quoi de récent?
Non, mais même, on a joué à rien de récent.
Je sais pas. Je t'aime bien, tu peux dire Battlestar Galactica, par exemple.
Alors, malheureusement, c'est pas un des jeux...
Chut, alors tu dis pas.
Alors, c'est le meilleur jeu, c'est pas...
Le meilleur jeu de la Terre.
N'ayant pas vu la série, j'ai moins... J'ai pas sauté dessus à cause de l'univers, alors que j'ai l'impression que les gens qui connaissent la série sont à fond dans ce
jeu. Ah oui. Nous, on a eu le jeu, on a attendu 2 ans pour l'ouvrir. On a regardé toutes les saisons, et après, on l'a ouvert. Parce qu'effectivement, ça peut te spoiler des choses.
En plus,
c'est ce qu'on nous avait dit, donc on a préféré regarder la série d'abord.
Faut qu'on la revoie, faut que j'achète les coffrets.
Ah, le beau coffret.
T'es
avec
pas
le filon.
La série parce que.
Ah, si tu veux pas te spoiler.
Quand ils ont créé le jeu, ils avaient encore que les 2 premières saisons qui étaient sorties.
Ah non, il y a des trucs.
Oui,
je
savais pas.
Je vais pas le dire
pas
à l'antenne, mais il y a des trucs. Ouais. Tu lis, tu. Après, nous, ça nous a. En fait, on a ouvert la boîte. Ouais. On arrivait presque à la fin de la série. Et on a ouvert notre boîte. On a dit, tu crois qu'il y avait des gros spoils? Et puis il y a un truc, on s'est dit, ah bon? Tu crois que... Hein? Et puis du coup, après, à la fin de tout ce qu'on a regardé les épisodes, on était... Oh, elle va mourir.
Geoffrey meurt.
Chut, on a parlé à saison 4.
On en tue pour moins que ça. Hein.
Malheureux.
Par contre, j'ai hâte de pouvoir tester Serenity, parce que ça, c'est une série que j'ai vue, pour le coup.
Ah,
Serenity, on a vu ASN, le jeu qui était censé
sortir. C'est Firefly.
Français cette année, mais ça va sortir quand?
Enfin, je pense que c'était juste encore un mensonge d'éditeur.
C'est triste.
Il y a eu deux mensonges, deux gros mensonges dans ma vie
dans
des joueurs.
Phrases.
Non, alors là, il n'y a pas de. Il y a juste. C'est vraiment objectif. c'est Agno Girk sur le stand de. Je balance. Hein.
Carrément.
On l'a entendu plein de fois.
De Lookout, qui m'a dit. Je lui dis. J'achète un Agricola, mais si je traduis juste. Le truc, la petite ligne du milieu, là, ça marche, je peux jouer. Ouais, pas de problème, ouais, salaud. Ouais.
Très bien, tout est clair.
Et puis, là, c'est l'inverse, et je veux pas acheter en anglais. Est-ce que ça va sortir en français? Oui, ça va sortir en français.
En février, nous a dit.
Salaud.
Parce qu'ils étaient en train de négocier avec un éditeur sur le salon, ça.
Ouais.
Ce qui est bête, c'est que, enfin bon, je sais que tu l'aurais pas acheté en anglais, mais à un moment, je sais que Philibert l'a eu bravé à 30 euros, du coup, la version anglaise.
Oh.
Mais il est indisponible maintenant.
Ah.
Bah, ils ont tout vendu.
Bah, c'est qu'il y a peut-être une VF qui arrive, quoi. Si c'est chez Philosophia, c'est normal que c'était prévu en février et que ça arrive qu'en 2015.
C'est pas forcément.
Ouais, je sais.
Quoi ?
Un tirage de 750 exemplaires.
Chez Edge aussi, ça fait bien ça.
Ouais.
Oui, en plus, je vois plutôt Edge édité sur le truc, quoi.
Donc non, moi, j'ai pas de nouveauté non plus. Enfin, donc on devait jouer à Splendor.
On a fait
plus
de GDR que de jeux de société récemment.
Ouais, puis j'ai des
la chance.
Podcasts à monter, donc on a joué à, justement, au dragon de poche, quoi. C'est pas quand... aventure de poche, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai l'air de poche.
Je sais plus. Voilà.
C'était bien.
Voilà.
Jérémy.
Oui.
Camel Up.
Alors, j'ai commencé par Camel Up.
Tu peux finir par Camel Up. Peut-être que on peut rappeler très.
C'est comme vite. Ça, toi, t'écoutes. Je vous commence par le plus accessible.
Non, parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est rappeler rapidement, puisqu'on en a déjà parlé les autres jeux, et puis on finit par.
Tu m'as cassé son groove là.
Ouais.
Non, parce que vous voulez qu'on parle des autres jeux du nominé au Spiel. Alors, concept.
Concept, je vais y aller.
Donc, ça, je te laisse y aller.
Un plateau, pardon. des petites figurines qui nous permettent de définir un concept en donnant des indices aux gens. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire je suis un film, je suis un personnage, je suis un lieu. Et après, à partir de là, on va pouvoir dire je suis un personnage fictif, je suis un super-héros, je suis ceci, je suis cela. Et puis après, on peut décliner. C'est-à-dire, si on a plusieurs concepts dans ce qu'il faut faire deviner, on peut dire, alors je sais pas, guerre épée, on peut dire, on peut décliner les deux. Et puis on peut dire, voilà. Donc ça permet, c'est un petit peu le jeu qu'on a nous dans la voiture en disant, tiens, je vais te faire deviner un truc, d'accord. Est-ce que c'est un minéral ? Non. Est-ce que c'est un végétal ? Oui. Mmh. Ben là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de poser toi les questions, tu vas donner des réponses aux autres en disant, voilà, donc je suis jaune, je suis une boule jaune, donc tu vas faire, je suis un personnage fictif. Et puis d'abord, tu as un concept qui dit je suis un personnage fictif, et après, tu vas avoir la description. Je suis jaune, je suis rond et jaune. Et tu vois, et après tu vas pouvoir décliner ça.
La différence par rapport à quand tu es dans la voiture, c'est que là c'est des images qui peuvent avoir plusieurs significations, et c'est la difficulté qu'il y aura dans le jeu, c'est celle-là. Parce qu'il faudra t'adapter à ce que proposent les gens. Tu vas t'apercevoir que certaines images que tu as choisies ne vont pas être comprises dans le bon sens.
Oui, parce que l'idée ne vient pas des autres. Parce que quand tu dis est-ce que c'est un végétal, c'est moi qui demande, c'est toi qui fais deviner, c'est moi qui pose la question. Tu dis est-ce que c'est un végétal? Si je dis est-ce que c'est un animal, je sais ce que c'est qu'un animal. Alors que toi, quand tu dois faire deviner un animal, c'est déjà plus compliqué.
Mm-hmm. T'as pas compris, ça. Il y a un concept derrière la définition.
Moi, ce que j'aime bien, c'est jouer avec les petits cubes et la façon dont tu les mets,
les
empiler ou les mettre sur l'image à un endroit bien précis pour marquer le détail, ou la manière dont tu les poses et dans l'ordre dans lequel tu les mets. Mm. Et ils peuvent vouloir dire plein de choses, c'est super intéressant.
On devait faire deviner les 7 mercenaires, donc la personne qui devait faire deviner a mis 7 cubes justement avant. Mais bon, pour qu'on trouve, il n'y a pas eu du temps.
C'est comme tous les jeux.
Aussi.
Les jeux coopératifs.
Guerre, je crois, hein,
les jeux, c'est des jeux coopératifs, c'est un petit peu les trucs les standards qu'on met en place. Tu sais, les.
Comme de communication.
Comme un habit, oui, c'est ça. Mm. C'est-à-dire, si j'en mets 7, c'est qu'il y en a vraiment 7, tu vois, ou si j'en mets plein.
Ouais. Oui.
Ouais.
Se mettre d'accord au début.
Ah non, non.
Donc, c'est très accessible, c'est très fun. C'est, on peut même jouer avec des gens qui ne savent pas lire.
Enfin, jouer avec
des enfants qui ne savent pas lire. Ou même des gens adultes qui ne savent pas lire.
Ouais, les enfants qui ne savent pas lire, tu leur dis tu penses à quelque chose et tu le fais deviner. Il n'est pas obligé de piocher une carte et de lire.
Alors, on a été piégés parce que René, ça ne marche pas. En fait, il mettait plein de trucs, et au bout d'un moment, il a dit « Mais tu penses à quelque chose ou pas ?»« Bah non
okay. !» Ah, parce qu'il
et en fait, il s'amusait juste à mettre des trucs partout, puis on cherchait, ça devenait de plus en plus compliqué. Et voilà. C'est drôle après coup, mais sur le coup, c'est très frustrant.
Parce que les enfants qui ne savent pas lire, c'est peut-être un peu compliqué pour eux, mais on peut quand même y jouer. Il faut leur souffler le mot, en fait. Tu vas faire deviner ce mot-là.
Ouais, ou ils prennent un truc qui est dans leur champ visuel. Ah, oui.
Et j'ai deviné en un coup un truc qu'il a fait deviner, il a pleuré aussi. Alors.
Ouais, mais ça, c'est parce que tu fais pleurer les enfants. Ça,
non.
Les femmes, elles font pleurer les enfants.
C'est bien connu.
Ce qu'il avait cherché.
Ils ont futé. Mais, effectivement.
Splendeur, on va vous renvoyer à l'épisode 55, puisqu'on en a parlé à l'épisode 55. Et le troisième jeu qui est nominé au Spiel des Sarres, c'est
Camelop.
Camelop
sortir, c'est vrai.
Donc le graphisme.
Alors, le graphisme déjà, à la base, quand tu vois la boîte, tu sais déjà pas si le jeu il s'appelle Camelop ou Camel Cup. Grosse question.
C'est ça, Camel Cup en fait.
T'aurais tendance à dire Camel Cup, on est d'accord. Ouais. Mais il s'appelle Camel Up, c'est comme ça qu'il est dans la liste des jeux nominés, c'est comme ça qu'il est référencé sur BGG.
Et qu'est-ce qu'ils font ces chameaux?
Alors pourquoi c'est Camel Up? Parce que si tu regardes sur la tranche, les chameaux,
ils sont tous empilés.
Ils font quand même la gueule, comme ils sont un peu empilés. Ouais. Alors parce que...
C'est un jeu coquin en fait, Camel Up.
Oui, pour les chameaux. Chez les chameaux, c'est très sexy.
Parce qu'en fait, je sais pas quel était le thème de base de l'auteur, c'était peut-être pas les chameaux.
C'est ça.
Mais il y a quand même la notion de pyramide, alors doublement la pyramide.
C'est pour ça.
Épisode rose.
Il y a la notion de pyramide parce qu'en fait, dans le jeu, comme on a déjà vu dans d'autres jeux, Les chameaux, quand ils arrivent sur la même case, ils s'empilent les uns sur les autres.
C'est ça.
Ils font une pyramide de chameaux comme ça.
Comme Eagle et Gurn.
Ils sont jolis, hein, ils sont stylés quand
ils
même.
Sont très
les hérissons qui s'enculent dans le noir.
C'est rigolo.
Alors là, on va faire voir si les chameaux peuvent.
C'est fait d'outils qui disent ça, on se bat de moi. Donc,
ah, ouais. C'est plus dur pour les chameaux.
Ouais, tu peux arriver à faire un truc qui est crédible.
Ah, mais ils basculent un peu en dehors.
On vous fera des photos pour les chameaux.
Bon, oui, je sais pas si je ferai des photos avec les. Bon. Donc voilà, donc on peut. Donc la notion de pyramide des chameaux. Et il y a une autre pyramide
est-ce
dans le jeu.
Est-ce que ça
qui sert le tour à dés.
Le fait que les chameaux s'empilent, est-ce que c'est vraiment une mécanique ludique ou pas?
Ça fait partie du jeu.
Ouais. Ah.
D'accord.
Non mais oui, bien sûr. Et c'est pour ça. Et donc J.K.
Mellop. C'est pas juste un détail coquin.
Non, il y a un vrai concept dans le jeu. Ah, attention, hein, on n'est pas dans un jeu non plus hyper révolutionnaire. Et il y a aussi donc, une pyramide ouais, qu'on assemble en carton et qui vient en 3D comme ça.
Il y a quoi dedans?
Et dedans, on y met des dés. Il y a 5 dés chutes. En fait de couleurs qui correspondent à chaque couleur des chameaux. Voilà. Ok, les valeurs, ils ont les valeurs de 1, 2 ou 3. Et en fait, il y a un mécanisme avec un petit élastique qui fait qu'on peut fermer la pyramide ou l'ouvrir pour faire sortir un dé. Donc dans le jeu, on secoue la pyramide. On la met à l'envers, on appuie pour faire tomber un dé.
Une pyramide tac. À l'envers.
Et du coup, bah voilà, des fois il y a deux dés, mais. Des mots, hein, c'est l'effet des mots.
Un gobelet aurait été tellement plus.
Hein. Non, parce que ça choisit au hasard un dé et ça le met sur une face. Moi aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ça? Une tour à dé, c'était aussi simple. Non, parce que ça choisit aléatoirement un dé.
D'accord.
Et donc là, ça dit par exemple une case. Donc ça veut dire qu'il faudrait avancer le chameau vert en fait de une case.
D'accord. Est-ce qu'on répondrait pas un peu à une des questions qu'on se posait en tout début d'émission qui est pourquoi est-ce que c'est nominé au Spiel des Jahres?
Bien sûr, il y a un petit peu ça. Et le jury disait aussi qu'ils aimaient bien parce que le concept était simple, etc.
Mais là, le fait, c'est difficile de dire t'as 4 dés et t'en choisis un aléatoirement et tu le lances.
Et donc là, c'est la tour qui le fait pour toi. Enfin, c'est la pyramide qui le fait pour toi. Avec un concept, on retrouve de plus en plus. Je pense que c'est une nouveauté de fabrication où maintenant, on a de plus en plus de jeux en 3D.
Ouais.
C'est vraiment une tendance forte. Je vous parlerai devant d'une heure quand on sortira en français. Qui est le jeu de Klaus Teuber, pareil, les beaux bateaux qu'on assemble. C'est rien que le voir, les bateaux assemblés. Actuellement, ça attire. Je pense que dans 3 ans, on sera tous en 3D. On se dira, ah bon, ça va.
Ah, je l'ai vu celui-là. Ouais, il est beau.
Il est beau,
ouais.
Hein, mais après, ça reste assez basique. Hein. Ça reste proche d'un Catan. Et il y a Colt Express qui arrive chez Ludono, c'est pareil, c'est un train, il est en 3D, c'est super beau. Quoi.
Ouais.
Donc pour l'instant, on craque, c'est parce que c'est les premiers jeux qui sont en 3D.
Mm.
Au Camelot, je peux pas craquer.
In
pour
3D,
ça,
comme au cinéma en fait.
Ouais. Ouais, c'est possible, en plus que la 3D, elle n'apporte pas plus effectivement non plus dans ces jeux. Hein.
C'est du matériel.
Ouais, c'est plus joli. Ouais,
c'est plus joli. Ouais.
Ah oui, dans le vent du Nord, on adore avoir son gros bateau et charger ses cargaisons.
Tu veux dire. On reprend le concept qu'a fait les belles heures d'Azan Vendeur depuis 10 ans.
Oui, on avait parlé de Cléopâtre, effectivement. Ouais,
Cléopâtre ou... Enfin... Cléopâtre ?
Non.
Cléopâtre.
Ok, alors après, pour le reste du jeu, c'est super basique. En fait, les chameaux, ils vont devoir faire une course sur 16 cases. Alors, je change le matériel en même temps. Pour les gens autour de la table.
Oh, les bruits de verre, quoi.
Les bruits de la tour à dés.
C'est juste Olivier qui attrape pas les dés. Alors... Ouais, donc je ne sais même pas comment poser, il y a trop de billets. Voilà, je vais faire comme ça. Okay. Donc en fait, il y a 16 cases. Les chameaux vont faire le tour en 16 cases. Le jeu joue sur plusieurs manches.
Mais c'est un jeu pour enfants, non?
Ouais, c'est un jeu à partir du temps, carrément. C'est un jeu familial, hein, c'est catégorie Spiel des Jahres. Et à son tour de jeu.
Splendor ou ça? C'est le choix, en fait.
Ouais, je pensais qu'on s'applique gagne quand même, mais ou ça, c'est de. Enfin, pour moi, ça, c'est plus Spiel que Splendor.
Oui,
donc ce sera Splendor.
Non, c'est un concept.
Si tu suis la logique, c'est comme ça que
ça marche. L'élimination avec moi, ça marche comme ça.
D'accord.
Bon, ok, je vous ai vu.
16 cases, des dromadaires.
Voilà, à son tour de jeu, on choisit en fait si on va miser. En fait, ça se joue en plusieurs manches. Une manche, elle se termine quand chacun des chameaux avance au moins une fois. À la fin de la manche, on va regarder le chameau qui est en tête, il va rapporter des points au joueur qui a misé dessus. En fait, à ton tour de jeu, tu peux. Ou bien tu mises sur un chameau que tu penses qui sera premier de la manche, premier ou deuxième. Ou bien tu vas faire avancer un chameau, ou bien tu peux placer, on a des tuiles désert ou oasis qui permettent de faire reculer ou d'avancer des chameaux, ou alors tu vas miser sur qui va gagner la course, mais ça tu vas le faire plutôt à la fin de la partie, ou qui va perdre la course. Et quand tu choisis de faire avancer un chameau, et bah simplement tu prends la tour à la pyramide, tu tournes, tu lances, ça sort un dé et t'avances le chameau d'autant de cases. S'il arrive sur une case où il y a déjà des chameaux, tu t'empiles dessus. Donc tu viens par dessus. Du coup on considère que par exemple, là, dans mon exemple, le chameau blanc il est sur le vert qui est sur l'orange, donc le chameau blanc est devant. Il est premier. Okay. Et donc si par exemple plus tard donc le blanc vient d'arriver sur le vert et plus tard quelqu'un joue et le vert avance, et ben, il va emmener le blanc avec lui. Donc là on garde l'aspect pyramide très important.
Mécanisme connu.
Oui, c'est un mécanisme qui est déjà connu, tout à fait. L'intérêt qui est là-dedans, c'est juste que à ton tour de jeu, tu dois choisir. Est-ce que tu vas parier sur le blanc, tu dis ouais, il va gagner la manche, ou est-ce que tu vas jouer pour faire avancer, est-ce que tu vas tenter de faire avancer un chameau? Parce que des fois, c'est assez indécis, donc tu oses pas tout de suite. Voilà, c'est à peu près tous tes choix, ils s'arrêtent là. Hein. Il y a le petit côté où tu peux mettre tes tuiles désertes qui vont faire que si le chameau il arrive dessus, bah, il va reculer, ou au contraire, il va avancer d'une case, donc tu vas pouvoir un petit peu mettre un peu de chaos dans la partie. Des fois, il y a un chameau, il est parti super loin devant les autres, mais en fait, tu vas pouvoir facilement ralentir ou facilement accélérer les autres, et il va se faire rattraper. C'est à peu près tout ce qu'il y a hein, dans le jeu, en concept, c'est basique. Mais le fait que la règle soit simple, ça marche tout de suite, en fait. Même avec des enfants.
C'est ludique.
Ouais, le matériel est ludique. Alors, ce que j'ai... Donc, du coup, en fait, c'est juste les points, bah, c'est de l'argent qu'on gagne hein, quand on mise. On commence avec 3 sous, je crois, et on finit avec plus de 30 sans aucun problème. C'est win to win. voilà. Alors, à noter que dans le genre d'esprit, jeu de course avec des paris, des contrats, des choses comme ça, il y a Lemming Mafia qui existe chez Yellow. Mm-hmm. Je pense qu'il est toujours disponible. Qui est un cran au-dessus, quand même, parce que... mais que je trouve plus intéressant de parler. Parce qu'on a des contrats plus compliqués à faire, on a plus de. D'action possible, on a plus d'influence sur le jeu là. Finalement, on fait pas grand chose, on dépend en partie du dé. Mais tu peux quand même te dire, ah, il y a une chance quand même que le chameau il avance, il monte sur celui-là et qu'après ils avancent tous les deux. Donc tu prends le pari, tu dis, ok, je mise sur celui-là. Alors qu'en fait, non, t'as pas de chance et puis c'est pas comme ça que ça va se produire. Mais tu vas aussi jouer en réaction aux autres. Si les autres sont déjà trop misés sur un chameau, tu vas tenter d'en avantager un autre. Voilà, c'est tout. C'est Camel Up.
Ok. Très bien.
C'est. Et ça arrive donc en français, je crois, chez Philosophia et Zeman Games, je pense en anglais, dans mais genre maintenant,
là,
quoi.
Maintenant, ouais.
Ouais, ouais. J'en avais jamais entendu parler et c'est sorti là.
Alors.
Comme quoi, quand ils veulent.
Bah là, ça tombe pile poil pour eux, quoi. Le jeu, il sort et il a un très bon.
Une très bonne visibilité.
Une très bonne visibilité, ouais. Mais j'ai acheté la version allemande, il n'y a pas de texte hein, sur le...
Acheter la version allemande, elle vaut 30% de moins et. Il n'y a pas de texte.
Alors en France, maintenant, surtout quand Philo sort les trucs, après il disparaît avec les versions. Camel Up, c'est un jeu de Stephen Bogen chez Egert pour 2 à 4 joueurs. Je sens rien.
Bravo. C'est le jet de bluff. T'as bien préparé.
2 à 8 joueurs.
Pour 2 à 8 joueurs. Incroyable. Ah ouais, on peut jouer
toute
avec
la famille.
Ouais, je pense que c'est très 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 chaotique à 8 joueurs. Donc il y en a qui ne doivent même pas jouer. Donc...
Et Hans Prouchvold, ça veut dire chaotique ? Parce que c'est Zer Hans Prouchvold.
Je ne sais pas.
Ouais, ou.
T'as acheté la version allemande en fait, toi.
Ouais, ouais, mais c'est Zer.
C'est ce qu'il vient de dire.
Donc c'est pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans.
On arrive à l'heure où en fait j'écoute plus. Donc...
Et ça se trouve chez Philibert à 22,95€ pour la version allemande.
Ah,
je pense que c'est un peu plus pour la version
c'est
française.
Précis. 95.
Ouais, je voudrais pas décevoir, tu vois, si je dis 23€. Ouais. Ça pourrait refroidir. Alors, 22,95€. Tout de suite, ça fait envie.
Ça Marise.
Non, mais ça reste un prix en plus correct par rapport au jeu. Quoi.
Oui, tout à fait. 22€, c'était le prix de.
95.
On a parlé de quel... Non.
23€, j'ai acheté Funkenschlag à ce prix-là il y a quelques années.
Quoi ?
Oh, c'est bien.
Non, il y a 10 ans.
Attention, les petits chameaux sont restés sur Race for the Galaxy.
Non, mais c'est bien. C'est un peu comme les dés avec des centres. Je vais me faire une famille de chameaux.
Par contre, le jeu, il a un défaut, qui est volontaire, hein, mais c'est son boîtage, c'est une grosse boîte carrée. Parce que c'est comme ça qu'un jeu peut être nominé maintenant, il peut être que dans une grosse boîte carrée.
Et 22€, c'est le prix d'un jeu de cartes maintenant. Donc,
oui, mais une grosse boîte carrée dans mes étagères, c'est chiant. Quoi.
Ça ne sera pas. Ça ne sera pas à ce prix-là chez Philosophia. Bon.
Si on peut se permettre de dire ce qu'on veut.
Pardon ?
Ou si on dit ce qu'on veut.
Oui, on dit ce qu'on veut. C'est un peu.
Bah oui, si je les enchaîne tous, c'est un
tu
peu.
Sais,
con, quoi.
Tu sais, j'ai écouté. Non, mais on peut peut-être en rester là. En plus, là, on est à 3h20 d'enregistrement. Le temps de mettre les dayers, ça met 25 minutes de plus. Ça fait 3h40. Plus.
Si tu le rends ça.
Ça fait. On est à nos 6 heures habituelles, donc il n'y a pas de.
Tout va bien.
J'ai petit aparté, j'écoutais un truc sur YouTube. Ça s'appelle Annie NK, quelqu'un qui. Discute sur YouTube, il y a une chaîne. C'est que plus on faisait de hits, plus on était visible et moins on était tranchant dans nos avis parce qu'on on avait tendance à aplatir à être de plus en plus rond.
Après,
et,
t'appelles TF1, quoi.
C'est ça. Et je suis content que même malgré qu'on soit de plus en plus écouté et qu'on ait de plus en plus de visibilité au niveau des joueurs, des éditeurs et des auteurs, on continue à dire des choses comme ça. Quoi.
Alors il y a deux choses. quitte à y aller.
Qu'est-ce qui se passe sur le chat?
J'ai Alexis qui met, tu parles de la consensualité de Gus. Donc, on va couper ça au montage.
Non, mais il y a
pardon, troll. Non, parce qu'on fait plus de hits sur mon cul et on a plus de visibilité, donc ça n'a rien à voir.
Non, mais il y a deux choses. C'est, de toute façon, je me refuserais. Enfin, si on peut plus dire ce qu'on pense, ça sert à rien. De toute façon,
c'est triste, ouais.
Ouais, non, mais c'est premier point. Après, c'est sûr que si ça gêne des éditeurs, bah, de toute façon, globalement, on ne demande pas les boîtes aux éditeurs. On en a de temps en temps, etc. Mais,
on les remercie.
Voilà, mais Camelop, je l'ai acheté. Enfin, il y a beaucoup de jeux que j'achète,
oui.
En fait. Aussi.
Oui, par rapport à ce qu'on a. C'est ça, un truc. Par rapport à ce qu'on achète, les éditeurs ne sont pas perdants, en fait. Parce qu'on se croit ce qu'ils nous donnent et ce qu'on achète. De toute façon, on rentabilise bien. Fait de dire les choses.
En fait, la seule différence, c'est que c'est vrai que des fois, il y a des jeux, bah voilà, moi, les jeux qui vont me tenir à cœur, je vais les acheter, je vais pas hésiter. Après, il y a des jeux, tu sais pas. Hein. Tu dis, oh, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer, etc. Mais ce serait bien que j'en parle. Bon, bah là, tu contactes l'éditeur.
Il faut qu'on fasse un truc avec Sans Détour, parce que Barbarossa, 60 euros, ça fait cher.
C'est Sans Détour.
C'est drôle, hein, que ce soit Sans Détour.
Ah, c'est le truc Play and Win.
Donc, je suis content. Puis, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça change. On a le droit de dire ce qu'on veut. On est sur Internet.
On peut dire n'importe quoi sur Internet, on s'en fout.
Non, on peut dire ce qu'on veut. Après, voilà. Et tu vois, quand je dis ça va être 30% plus cher, ça va être 30% plus cher.
Ça va être
30
euros, le jeu.
Ça va être 30, 35 euros. En fin de compte...
30.
Oui, ça va être 30 euros. Mais tu vois, c'est pas... Enfin, c'est juste la vérité. Donc,
Mais en fait, je sais pas s'il avait été à 30, si je l'aurais pris aussi facilement en blind comme ça, quoi. Là, j'ai dit, à ce prix-là, j'ai dit l'objectif, c'était de pouvoir y jouer avant ce soir.
Ouais,
il me restait une semaine, de pouvoir en parler. Quoi.
Bah,
les enfants, ils ont aimé ?
Ouais, mes enfants, ils ont aimé. Mais tu sais, les enfants, tu leur fais jouer un jeu comme ça. Non, mais sérieusement, ils découvrent un nouveau jeu, ils sont sympas. Non, c'est pas ça. Ils ont pas. Je pense
qu'ils ont pas d'âme, de toute façon. Donc,
ils sont pas aussi critiques que nous à leur âge. Donc, ils aiment le jeu quand tu viens de le sortir, tu vois. Genre, Vent du Nord, typiquement. On l'a sorti un week-end. On a adoré, les gamins, ils ont adoré. Bon, un peu moins. Mais... Les enfants, ils ont adoré. On a fait deux parties le même jour. Tu vois, depuis, on n'a jamais ressorti.
Ah, bah oui.
Ouais, tu vois, il y a d'autres jeux, hein. On a eu d'autres jeux. Il y a d'autres jeux, par contre, qui ressortent plus facilement dans le temps, etc. Tu vois, je parlais de Zoloretto, par exemple. Il a eu le spiel, et tu sais pourquoi, en fait. Donc, sur le coup, tu dis, ouais, machin, c'est cheaté, etc. Mais en fait, je me rends compte que non, ouais, le jeu, il mérite sa place. Et ouais, Camelop, il a pas cette dimension-là, je pense pas. En tout cas, pas dans ma ludothèque. J'ai trop d'autres jeux intéressants à sortir. Et ils préfèrent les Ming Mafia à la réflexion, mes enfants.
Marilyn, un petit mot pour finir. Un petit mot de conclusion.
Il aime bien me donner de...
Un grand mot.
Bah, merci. Merci,
merci à toi d'être venu.
De nous avoir, je dis nous.
Oui, vous êtes deux. Enfin,
D'avoir donné la parole aux femmes. Merci de m'avoir invité. C'était cool.
Tu reviendras en plus, tu sais, maintenant. Projet à parler.
Avec plaisir.
Un petit mot ?
Oui, bah merci aussi de m'avoir invité. Faites-vous le chemin exprès pour venir.
Je serais resté dans le bureau normalement, donc je suis contente. Non, j'ai sorti.
Vous l'avez laissé sortir.
Je suis venue un peu sur la pointe des pieds parce que j'étais intimidée. Mais maintenant que j'ai bu plein de bière, ça se passe vraiment bien.
Donc vous avez,
La vie est belle.
Un petit truc de proxy jeu.
9 canettes sur la table.
Non, c'est super simple.
C'est les 33 centimes.
Et on compte pas celles qui sont par terre.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir voulu participer, d'avoir accepté de participer. Il faut qu'on se revoie parce qu'on a un autre sujet à traiter, c'est le financement du hobby jeux de société. Mm-hmm. Et puis, il faut qu'on se revoie absolument pour ça. Merci, Eve, de ta participation à ce podcast. Merci à toutes celles et tous ceux, les déchutes, Krillin, et puis les délires qui ont travailler pour que cet épisode soit un épisode rose. N'hésitez pas à laisser un commentaire, nous dire si on a dépassé les bornes, s'il faut qu'on arrête de boire de la bière ou au contraire, si vous avez aimé cet épisode, je vous donnerai mon adresse pour que vous nous envoyiez encore plus de bière. N'oubliez pas le Patreon. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui nous font des dons. Parce que vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie de vous engager sur un long terme,
Les liens sur le site sur la droite.
Un petit don. On vous dit à bientôt. Le prochain épisode sera un épisode peut-être aussi un tout petit peu particulier, puisque on va en enregistrer un bout avec la Proxy Team ou une partie de la Proxy Team.
Ah oui,
ça sera le dernier de l'année.
Ouais, on enregistrera aussi un bout avant.
Ouais, je sais pas. Je sais pas. Déjà, j'ai cette immensité de numéro 56 à monter, si tu veux. Donc après, je sais pas comment ça va se passer. Le site podcast.proxy avec un i-jeu avec un.fr. Le Twitter à proxy jeu. Le Facebook. Voilà. On vous dit à très bientôt. Et en attendant.
Jouez bien.
Ah bah alors.
Ah non, mais moi j'attendais qu'elle le fasse.
On va agrémenter le final. Ouais, attention.
On va agrémenter. Avec une voix douce.
On vous dit donc à très bientôt. Et en attendant.
Jouez bien.
Ha ha ha.